installez-vous, on va essayer de commencer pas trop tard. Donc bonsoir, on va essayer de commencer à l'heure parce que c'est une soirée où on vous laisse le temps quand même de souffler entre la conférence et le spectacle. Donc Céline, que pour certains connaissent, Céline Roux, fait la première conférence de la saison à l'occasion de la venue de Béatrice Massin et du spectacle Masse B. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, j'espère, découvrir ce soir. À 20h30. Donc la conférence durera une heure. Ensuite, vous avez une heure pour vous changer les idées, pour restaurer. Et puis, le spectacle est à 20h30 dans la grande salle du théâtre. Donc je voulais vous remercier d'être présents. La prochaine conférence de Céline aura lieu au mois de janvier, à l'occasion de la venue du spectacle Casse-Noisette, par le ballet de Flandre. Et donc, vous serez aussi informés de cette conférence. Il y en a assez peu cette année, mais donc, elles sont précieuses. Je vous souhaite une très bonne conférence.
Merci. Merci, Nadège. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, ben, on a fait ça le comble, comme on dit dans le spectacle. Merci en tout cas d'être présent ce soir pour cette conférence intitulée « Plongée dans la danse baroque ». Alors en introduction, peut-être d'abord dire que depuis les années 1960, nous appelons danse baroque l'art chorégraphique des XVIIe et XVIIIe siècles, principalement la danse de cour et de théâtre. Elle peut être considérée, dans notre vocabulaire, comme l'ancêtre de la danse classique, c'est-à-dire du ballet romantique du milieu du XIXe siècle, et puis à la fin du XIXe siècle, ce que nous nommons le ballet post-romantique ou ballet académique, c'est-à-dire un ballet qui a gagné son autonomie dans la gestion de l'action, et puis qui a continué à codifier et à développer son art au sein de l'espace scénique. La danse dont nous allons partager quelques éléments ce soir n'est donc pas celle des tutus et des pointes, ni même d'une pantomime cernée permettant de raconter l'action, mais bien de la danse des périodes qui l'ont précédée. Cet art chorégraphique des XVIIe et XVIIIe siècles donc a été tardivement appelé danse baroque, expression créée pour correspondre à musique baroque. D'autres ont préféré d'ailleurs la nommer danse historique ou danse de cour. Mais cet art chorégraphique des XVIIe et XVIIIe siècles avait déjà un nom, à l'époque même où il se développait. Il s'appelait la belle danse. Donc vous pouvez associer danse baroque à ce terme de belle danse, et je préférerais essayer d'utiliser ce mot de belle danse dans le temps de conférence. Dans son ouvrage « Entre cour et jardin d'illusion, le ballet en Europe, 1515-1715 » de Nathalie Lecomte, que je vous conseille si vous êtes vraiment passionné par cette période, voilà ce qu'elle nous dit au sujet de cette définition de la belle danse. Elle nous dit « Au XVIIe siècle, l'expression « belle danse » désigne un style qui se développe en France sous le règne de Louis XIII. » pour atteindre sa plénitude sous celui de Louis XIV. Cette dénomination est construite sur le modèle courant à l'époque de bel esprit, bel air, beau langage ou bel usage. Sans que le sens premier du qualificatif beau, belle soit occulté, il ne doit pas être entendu ici dans le sens de joli et se réfère alors aux pratiques d'une catégorie bien déterminée de la société, en l'occurrence la noblesse. De plus, l'humanisme avait réactivé la valeur héritée de l'Antiquité, selon laquelle tout art vise le beau, qui vise le beau, cherche du même coup à atteindre le bien. Ainsi, les beaux-arts sont ceux qui permettent à l'homme de s'élever. En 1668, Michel de Pure écrit « La danse qu'on nomme la belle sent mieux sa personne de qualité et ce qui vaut encore beaucoup mieux, la modestie et la vertu. » Il témoigne ainsi de l'arrière-plan à la fois moral et social qui n'a cessé de prévaloir dans son élaboration. Donc par ce terme de belle danse, ne retenez pas simplement un critère de beauté, mais bien au-delà, un critère d'élégance, de bienséance et de vertu. C'est une période, cette période de la belle danse, une période de grands changements institutionnels pour l'art chorégraphique, notamment grâce à la faveur du roi Louis XIV, qui lui-même est un fervent danseur dans cet art vivant. Dès le XVIe siècle, de nombreux traités théoriques vont décrire, répertorier et diffuser l'évolution de la technique dansée. Pardon, j'en perds mes papiers. Donc, diffusion de la technique dansée à travers des traités, tout d'abord en prenant en compte les pas et les postures, et puis le ballet dans sa globalité. C'est le cas, par exemple, d'un traité très connu, celui de Toineau Arbeau, qui s'appelle l'Orchésographie de 1589. C'est un traité majeur décrivant les pas des danses de caractère et des danses de cour du XVe et du XVIe siècle. Et l'évolution, évidemment, du ballet de cour va transparaître dans ses écrits. Avec le XVIIe siècle, l'art chorégraphique va, en plus de cela, s'institutionnaliser, comme en témoigne un certain nombre de dates, notamment en 1661, la fondation de l'Académie royale de danse, rapidement mise sous la responsabilité de Pierre Beauchamp, qui est le maître à danser du roi, qui avait pour mission de former, enfin, cette académie avait pour mission de former des artistes et de codifier l'art chorégraphique. Elle va véritablement commencer son activité un an plus tard. En 1669, c'est l'année de la création de l'Académie royale de musique et l'ouverture de la première scène théâtrale, l'ancêtre de l'Opéra de Paris. Le roi va lui octroyer un privilège, le monopole de la représentation des pièces de théâtre en musique. De 1672 à 1687, c'est Lully qui en sera le directeur. À partir de 1670, Louis XIV va choisir d'abandonner les ballets de cour pour ouvrir progressivement, puis définitivement, la porte des théâtres à la danse, qui dans le même temps va se professionnaliser. Donc vous voyez un certain nombre d'événements qui font que la danse va s'institutionnaliser et avoir une vraie vie publique. 1681, la troupe est ouverte aux femmes et le principe de la scène à l'italienne va être adopté. Et puis on voit apparaître en 1700, à nouveau, parmi plein d'autres traités sur la danse, un traité majeur, celui de Feuillet, qui s'appelle « Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractère, figure et signe démonstratif ». Il va écrire d'autres recueils de danse aussi. La particularité de Feuillet, c'est qu'il va tenter d'inventer un système de notation du mouvement. Notation du mouvement pour pouvoir répertorier les différents mouvements présents dans les danses. Alors il va effectuer des répertoires des positionnements dans l'espace, des répertoires de pas, des répertoires de position, répertoires de danse solo, de danse en couple, de danse en groupe, ainsi que répertorier et essayer d'analyser leurs relations étroites, on pourrait même dire quasiment fusionnelles, avec la musique. Alors je vais vous montrer juste quelques planches pour vous montrer la diversité. D'abord, deux planches plutôt autour des pas, de comment, donc sur la planche de gauche, ce sont des exemples finalement de démonstration d'écriture des différents pas de danse. Et puis sur la page de droite, c'est une table des pas de bourrée ou fleurée. vous pouvez déjà reconnaître peut-être des noms ou une nomenclature que vous connaissez dans la danse classique. Il y a eu des évolutions, mais des choses aussi sont restées. Et puis je vous montre aussi deux autres tables qui sont là des danses complète avec la partition musicale au-dessus, donc le Rigodon de la paix, ainsi qu'une sarabande espagnole pour hommes. Et puis, dans la deuxième partie de la feuille, vous avez la trajectoire spatiale des danseurs et chaque petit signe correspond à un pas à exécuter sur cette mise en espace. Voilà ce que nous dit Feuillet dans ce rapport à la musique. Puisque vous le comprenez peut-être déjà, il y a un rapport très très fort entre danse et musique. Il nous dit, on doit remarquer trois sortes de mesures dans la danse, à savoir mesure à deux temps, mesure à trois temps et mesure à quatre temps. La mesure à deux temps comprend les airs de gavotte, gaillarde, bourrée, rigodon, gigue, canarie, etc. La mesure à trois temps comprend les airs de courante, sarabande, passacaille, chaconne, menuet, passe-pied, etc. Et la mesure à quatre temps comprend les airs lents, comme par exemple l'entrée d'Apollon de l'opéra du Triomphe de l'amour, et les airs de lourd. Dans les airs à deux temps et à trois temps, on met un pas pour chaque mesure, et dans la mesure à quatre temps, on en met deux. Je remarque néanmoins que ceux qui ont fait la courante ont mis deux pas dans chaque mesure, dont le premier occupe les deux premiers temps de la mesure et le deuxième pas n'occupe que le troisième temps. Et au menuet, ils n'en ont mis qu'un pour deux mesures. Les mesures des danses seront marquées comme on les marque à la musique, c'est-à-dire par des petites barres coupant le chemin en travers, qui représentent les mêmes barres qui tranchent les cinq règles de la musique, donc les entre-deux, dont les entre-deux feront autant de mesures. Donc voilà, des descriptifs très très précis du lien entre musique et danse, et puis vous l'avez compris, le nom des danses reprend le nom des musiques, tout simplement. Cela est aussi développé et partagé, parce qu'on va voir par exemple en 1713 l'école de danse de l'Opéra de Paris qui va être fondée par Louis XIV, et on sent que grâce à ces traités, grâce aux maîtres à danser, on va avoir comme ça une transmission de ses savoirs et de ses écrits. Deuxième traité majeur de cette période, c'est le maître à danser de Pierre Rameau de 1725, où je vous ai mis des reproductions des cinq positions des jambes. Et pour peut-être ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ont fait un peu de danse classique, vous pouvez reconnaître très clairement des positions de pieds que vous avez largement ressenties, travaillées dans vos cours, même si vous pourriez me dire que c'est une petite première, une petite seconde, une petite troisième, pas trop croisée, une quatrième, là aussi, pas trop croisée, et pas, avec des jambes peu écartées. Mais en tout cas, on reconnaît les positions qui ont une valeur, je dirais aujourd'hui, de tradition dans la danse classique. Ce traité de Pierre Rameau, le maître à danser, constitue un autre traité important parmi les multiples traités qui ont été travaillés à l'époque. Il faut savoir que, notamment, le traité de Feuillet a été traduit dans d'autres langues, et c'est ainsi que dans toute l'Europe, on va avoir ces traités qui vont circuler et qui vont pouvoir être partagés par des danseurs à la fois français, mais de d'autres pays. Si nous devions continuer cette chronologie, je l'arrête là, mais comprendre qu'il va y avoir un nouveau fait à la fin du 18e, enfin dans la dernière partie du 18e qui va être important, c'est cette arrivée de ce qu'on va appeler le ballet d'action ou le ballet pantomime, sous l'impulsion notamment de Jean-Georges Nauvert, qui va vraiment imposer la notion de pantomime dans le ballet et qui va faire que pour la première fois, la danse ne va pas être considérée comme un sujet d'intermède, mais véritablement comme un ballet narratif à part entière. Donc ça serait un autre sujet, mais en tout cas, il est bon de le savoir que ce 18e siècle va aussi porter ça. Alors si on regarde le dictionnaire de la danse, dans la définition de danse baroque, il nous est dit « étroitement lié à la musique baroque, tant par la chronologie que par le style, la danse baroque évolue dans le cadre du merveilleux ». Alors je vais peut-être vous mettre deux images de « merveilleux », j'y reviendrai. Donc, la danse baroque évolue dans le cadre du merveilleux, que ce soit dans le ballet de cour, la tragédie en musique ou l'opéra-ballet. Au XVIIe siècle, l'interprétation des danses baroques est extrêmement codifiée par rapport à la musique. Leur classification est fonction de la mesure et du nombre de temps qu'elles comportent. Ce merveilleux, nous le retrouvons notamment dans ces lithographies autour des fêtes des plaisirs de l'île enchantée qui ont eu lieu entre le 7 et le 13 mai 1664 à Versailles, où vous pouvez remarquer peut-être la démesure des décors et de la mise en scène pour ces théâtres en plein air au sein des jardins. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période historique et encore moins, je dirais, de la subtilité des enjeux chorégraphiques, dansés, surtout musicaux, qui constituent, on va dire, la richesse de la belle danse. C'est quelque chose, je le connais peu, ça. Mais ce qui m'intéressait plutôt, moi qui suis plutôt dans le champ de la danse contemporaine, c'était de partager avec vous, ou au moins d'essayer de comprendre avec vous, en quoi cette danse d'un autre temps, qui nous paraît peut-être très ancienne, possède en elle une naissance et des manières de danser qui peuvent être le terrain de jeu contemporain. Et je crois que ça sera intéressant pour nous ce soir par rapport à la pièce que l'on va voir ensuite. Donc un terrain de jeu contemporain pour des chorégraphes qui sont à la fois aventuriers et archéologues, je dirais. Aventuriers, aventurières et archéologues. Parce qu'il fallait finalement une grande perspicacité historique et quasiment archéologique, ainsi que, je dirais, peut-être un goût pour les aventures chorégraphiques, pour aller sortir des archives, analyser, comprendre, étudier et en quelque sorte ramener à la vie cette belle danse que le XXe siècle n'avait pas reçue en héritage. Il faut bien comprendre que le XXe siècle, le début du XXe siècle, avait complètement oublié cet héritage-là. Et donc, ce sont des chercheurs, des historiens de la danse de la deuxième partie du XXe siècle, mais aussi des chercheurs historiens artistes, on va le voir ensuite, qui ont réhabilité cet art et ce style de danse que le ballet romantique et post-romantique a eu tendance, peut-être, en tout cas c'est plutôt leur avis, à simplifier ou à uniformiser. Voilà, par rapport à cet historique-là de la reprise, peut-être quelques mots. J'ai pu lire dans différents écrits de spécialistes que c'est vraiment à partir du milieu des années 50 qu'on voit les premières tentatives de réhabilitation de ce patrimoine et, aux surprises, pas du tout en France, mais en Suède. Et puis ensuite, avec les années 70, ce sont les Américains qui vont à leur tour s'intéresser à ce patrimoine-là. Et on voit même, à la fin des années 70, quelques compagnies américaines faire des tournées en Europe de danse baroque. C'est le cas de la compagnie de Shirley Wine et puis d'une compagnie qui s'appelle The Baroque Dance Company avec Catherine Turossi et Annie Jacobi, qui vont se produire en Europe pour montrer des remontages de cette belle danse. En France, c'est une femme qui s'appelle Francine Lancelot qui va faire office de précurseur dans ses recherches. En 1980, elle va créer sa compagnie qui s'appelle Rie et Danserie et elle va faire office de pionnière. Elle sera ensuite suivie par un grand nombre de ses disciples, de danseuses qui ont pu partager son travail, comme Christine Bale, qui a depuis monté la compagnie L'éclat des muses, Marie-Geneviève Massé avec la compagnie de l'éventail, et puis la chorégraphe dont nous allons voir le spectacle ce soir, Béatrice Massin, avec la compagnie des Fêtes Galantes. Ces danseuses, chorégraphes, évidemment accompagnées de chercheurs, d'historiens, de musicologues, d'historiens de l'art, vont reconstituer ce répertoire baroque à partir d'archives, de témoignages, de partitions musicales, d'ouvrages et de traités sur la danse, notamment celui de Feuillet, dont on a vu quelques pages tout à l'heure, et puis ceux de ses successeurs. Donc la belle danse a été un art chorégraphique oublié, mais reconstruit. Et pour en revenir à Francine Lancelot, dans le cadre des recherches menées en France, Francine Lancelot a commencé par faire une thèse de doctorat en ethnologie historique sur les sociétés de farandole en Provence et en Languedoc, qu'elle a soutenue en 1973. Et puis ensuite, elle a participé à des missions de collectage de danse traditionnelle à travers la France dans les années 70. Et parallèlement, elle est devenue spécialiste du décryptage, de la notation de feuillets. Et donc ainsi, elle a associé cette capacité de lire la notation feuillet avec ses collectages de danse qu'elle pouvait repérer dans les différents territoires. Et donc, elle a mis en application le résultat de ses recherches au sein de sa compagnie. Elle crée sa compagnie pour pouvoir exploiter quelque part ses recherches et leur donner vie. Et c'est pour ça qu'elle crée en 1980 « Ries et danserie ». Alors, je vais peut-être vous montrer une reconstitution qui a été effectuée par Francine Lancelot, dansée ici par un danseur de l'Opéra de Paris qui s'appelle Jean-Christophe Paré. C'est une reconstitution de l'entrée d'Apollon dans le Triomphe de l'amour, un opéra ballet, en 5 actes et 20 entrées. Et donc, je me tais pour que vous puissiez voilà, regarder l'extrait. Ah, il n'y a pas de son. Je ne bouge plus. Toujours pas. J'attends un signe distinctif de quelque chose qui... Oui ? Toujours pas. Non, non, c'est parce que je peux rien faire, c'est que j'essaie moi d'activer quelque chose, mais pourtant on a fait des essais qui marchaient très très bien tout à l'heure. Alors, tout va bien. Je peux meubler pendant ce temps-là, hein. Je vais meubler. Donc, on va voir cette partie de solo. Tout va bien. L'entrée d'Apollon. Alors à la fois des pas dans le sol, des pas dans la terre et puis des pas dans l'air. Tout ça dans une grande harmonie, une élégance, un tenu. Et puis une très grande précision dans le bas de jambe. Cette danse nous rappelle aussi que la danse faisait partie de l'éducation du gentilhomme, au même titre que la chasse, la guerre ou la musique. Et puis là encore, pour ceux, celles d'entre vous qui font de la danse classique, vous pouvez reconnaître dans les pas dansés une certaine nomenclature que vous pouvez travailler vous-même. Donc là, Francine Lancelot fait une restitution de cette entrée d'Apollon, qui est une chorégraphie au départ de Louis-Guillaume Pécourt, un danseur, chorégraphe, pédagogue, qui a été disciple de Beauchamp, membre de l'Académie royale de danse, et puis qui va succéder à Beauchamp lorsque celui-ci s'arrête. Il a écrit de nombreuses danses qui ont été répertoriées dans des traités. Alors je vais vous en montrer une autre danse de Louis-Guillaume Pécourt, une danse pour femmes, là dans un remontage de l'américaine Catherine Turossi. C'est la Passacaille d'Armide de Pécourt. Et je vous ai mis juste une des planches de cette Passacaille en regard. je l'arrête là. Juste vous remarquer, je pense, la grande musicalité, d'abord, et puis toute la complexité, la précision de la danse, tant dans l'espace qui l'entoure, que la précision dans le corps de la danseuse, à la fois dans le bas de jambe, mais pas seulement. Souvent, on a réduit finalement la danse dite baroque à ce travail de bas de jambe, mais on voit bien que finalement, c'est un corps complet qui se met en jeu dans ce rapport très ténu à la musique. Et donc, ainsi, ce travail de recherche a permis l'élaboration, on va dire, de reconstruction historique, hein, de pouvoir comprendre ce répertoire historique. Mais ce travail aussi de recherche a permis, d'un autre côté, des interprétations plus libres de cette belle danse, dans l'idée que finalement, travailler que sur une archéologie de la belle danse n'était peut-être pas la seule piste pour qu'elle reste vivante. C'est quelque chose, c'est une problématique qu'on a exactement de la même manière dans la danse contemporaine. La question de comment est-ce qu'on garde un répertoire vivant et actif au XXIe siècle. Donc redécouvrir la belle danse, c'est-à-dire lire et déchiffrer les traités de danse, comprendre les structurations chorégraphiques, sentir les liens extrêmement profonds et précis avec la musique, et puis surtout, certainement, sortir des images d'Épinal, dont j'avoue moi-même, je pense que j'en porte encore beaucoup, parce que je la connais très peu, sortir des images d'Épinal, exemple typique, l'idée que l'improvisation n'existait pas dans cette danse qui paraît très codifiée et très rigide, là où finalement elle était aussi très en lien avec cette question de l'improvisation dans le rapport musicien-danseur et puis aussi dans le travail, je crois, du haut du corps, des bras. Il y avait vraiment cette possibilité d'invention en instantané, même si les traités étaient là aussi pour garantir d'une passation, d'une transmission et d'une fixation de certains éléments. Donc, voilà, sortir des images d'Épinal, notamment de cette idée que la belle danse serait une danse rigidifiée, je dirais, par des codes et des formes, que ce serait une danse qui ne serait que celle de la préciosité du geste, et puis finalement qu'elle serait d'un manque de liberté, là où d'autres danses ouvriraient finalement à un champ plus libre. Il s'agit aussi pour ces chorégraphes et ces chercheurs de comprendre les enjeux, je dirais, socio-culturels présents dans ces corps et dans cette danse. Et je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire la faction politique qu'a pu avoir la belle danse au cours de ces deux siècles. C'est-à-dire comment la danse a été façonnée au regard de la société, mais aussi, à contrario, peut-être comment elle a aussi, je dirais, à sa façon, était aux prises sur la société et la culture qui l'entourait. Elle a été imprégnée de la société et de la culture qui l'entoure, mais en même temps, elle a pu elle-même imprégner cet environnement. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour la comprendre et pour essayer d'en saisir l'essence. Et puis au-delà de ça, on s'aperçoit beaucoup de ces chorégraphes qui cherchent et de ces chercheurs qui cherchent à comprendre mieux ce qui se passait finalement dans ce corps dansant de la belle danse vont aussi s'appuyer, je dirais, sur des outils contemporains pour cela, pour mieux comprendre le fonctionnement de son corps dansant, son rapport à l'imaginaire, son rapport à l'expression. Et je pense à des outils contemporains que vous connaissez peut-être comme l'AFCMD, qui est l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, qui peuvent être des outils vraiment intéressants pour essayer de retranscrire le mouvement dansé au-delà de la fixité finalement écrite dans les traités. Et donc, on s'aperçoit au fil des décennies, depuis les années 80, qu'on a un double répertoire qui est créé autour de la belle danse. D'un côté, un répertoire, je dirais, peut-être de mémoire, de reconstruction, de restitution, un répertoire qui permet justement de retrouver cette archéologie de la belle danse. Et puis, un répertoire d'invention qui expose, je dirais, la plasticité de cette danse. Comment cette danse, elle peut être malléable et comment elle peut avoir différents visages et qu'elle peut véritablement encore être très vivante dans la société du XXIe siècle. Sur cette question, et là j'avance tout doucement qu'on se prépare aussi à aller voir le spectacle de Béatrice Massin ce soir, j'attirerai votre attention peut-être sur deux éléments qui m'ont intéressé et que je vais pouvoir aussi illustrer avec des courts extraits de documentaires de Béatrice Massin. Deux éléments que j'aimerais qu'on voit un peu ensemble ce soir sur notre temps commun. Le premier élément, c'est la notion d'opposition dans le corps de la belle danse. Moi, j'ai été longtemps persuadée que la belle danse, comme la danse classique, on n'était que dans l'élévation. C'était une espèce d'image d'Épinal, une fois de plus. Et non, le principe de cette belle danse, elle est très très liée à ce principe de l'opposition dans le corps. Alors l'opposition, je vais vous mettre quelques planches déjà au niveau du travail des bras. Mais en tout cas, ici c'est des extraits du maître à danser de Pierre Rameau. Là on voit des planches autour de la naissance de l'opposition, puis des planches sur le travail des bras, puisque cette opposition, elle peut être présente dans les coordinations entre bras et jambes, entre les bras eux-mêmes, on en a deux, donc ils peuvent être en opposition, entre les deux jambes, mais donc aussi dans cette relation bras-jambes. Ici, voilà, nous avons quelques planches et on voit que Rameau ne fait pas que faire des dessins pour montrer des postures, il essaye aussi dans son texte d'expliciter comment est-ce qu'il perçoit l'harmonie, la mesure dans la symétrie ou au contraire dans l'opposition. Mais au-delà de cette question de l'opposition, je dirais, dans le rapport aux jambes et aux bras, cette opposition, elle est aussi présente, finalement, et ça, tout danseur le sait, qu'il soit classique ou contemporain, dans l'opposition entre le ciel et la terre. C'est-à-dire ce travail de verticalité qui présente une opposition dans le corps, et puis le rapport au poids, le rapport à l'ancrage dans le sol. À ce sujet, je vais vous montrer un court extrait d'un documentaire où Béatrice Massin parle de cette question de l'opposition, notamment par rapport au coude, qui, il me semble, est un très bel exemple pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je dis peut-être mal avec mes mots, et puis surtout qu'on le voit tout de suite dans le corps des danseurs, parce que très souvent, c'est des corps parlent plus que les mots.
Deuxième chose incroyable de cette danse, c'est qu'on va inventer des mouvements de bras qui fonctionnent pour la première fois dans l'histoire de la danse, en relation directe avec la direction de ce transfert, de cette marche. Et les mouvements des bras vont s'inventer alors que la première chose de base, c'est que dans un costume de l'époque, on ne peut pas bouger les épaules. Donc ils vont inventer des mouvements de bras en partant du principe que l'épaule est immobile, ce qui est déjà une première problématique. Et du coup, on va utiliser deux articulations, celle du poignet et puis celle du coude. Mais quand on se penche maintenant sur l'invention de cette danse et qu'on essaie de l'analyser sur un point d'analyse du mouvement, qui est vraiment un des grands courants actuels de la danse, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on va utiliser les coudes, on va connecter les coudes avec la terre et du coup, on va stabiliser complètement tout ce qui est la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les clavicules et les omoplates. Et donc, tout naturellement, à partir du moment où vous pensez vraiment à appuyer vos coudes vers le sol et les connecter avec le sol, on va permettre la réaction inverse du corps, c'est-à-dire l'élever. Or, pour la première fois, cette danse va intégrer l'idée que le temps fort musical n'est jamais en bas, mais toujours en élevé, parce qu'on va connecter pour la première fois le corps humain avec le ciel et la terre. Et du coup, on en fait un point de liaison dans l'univers, aussi pour des raisons politiques. Ça n'est pas pour rien que Louis XIV était le représentant du Dieu sur la Terre et que c'est lui qui dansait ses danses d'abord. Mais du coup, techniquement, le coude, cet appui du coude, vous allez nous le voir travailler de toutes les façons possibles, mais cet appui du coude va connecter le corps avec la possibilité d'élever. Alors, je vais juste vous demander de vous déplacer et juste dans cette marche, de temps en temps, hop, vous connectez le coude et un élevé avec. Et vous pouvez le prendre dans d'autres directions aussi, que ce soit... Et là, du coup, on n'est plus du tout sur la forme, cette fameuse forme que l'on peut voir parce qu'on voit des reproductions, des dessins de l'époque qui montrent cette opposition du bras, puisque ça s'appelle une opposition, puisque c'est un rapport par rapport à la jambe de devant. Mais là, d'un seul coup, on est vraiment dans l'énergie même du mouvement et ce qu'elle va permettre. Voilà.
Voilà. Tout est dit. Moi, je suis très intéressée par ces questions de notion de repousser ou comment est-ce qu'on a comme ça une précision dans le corps qui se crée par une intention qui est une intention fondamentale dans le mouvement et qu'on peut tout à fait retrouver ces notions d'opposition, de poids dans les fondements du corps moderne ou du corps contemporain. Si on pense à Rudolf Laban au début du XXe siècle et à ses fondamentaux du mouvement, espace-temps, poids, flux, qui créent des dynamiques, on peut véritablement retrouver des intentions ou en tout cas une prévalence de notions fondamentales dans la présence du danseur dans sa verticalité, dans son rapport à la gravité et, je dirais, à son élévation. Cette notion d'opposition, on la retrouve très souvent dans les traités. Je vous ai montré celui du maître à danser, mais on la retrouve aussi là, par exemple, dans les mouvements de bras, dans le traité de Feuillet. Donc c'est quelque chose qui va être très, très présent et qui permet de construire ce corps de la belle danse. Ça, c'est le premier élément. Vous l'avez entendu dans le documentaire, c'est connecté aussi à la musicalité et au rythme. Et ça, c'est le deuxième élément que j'aimerais qu'on voit ensemble ou qu'on porte notre attention dès maintenant, je dirais, avant même de rentrer dans la salle du spectacle, c'est cette notion de musicalité, de précision rythmique. Tout à l'heure, on a vu un extrait de l'entrée d'Apollon. Et là, je vous montre juste deux planches uniquement de cette entrée d'Apollon chez Feuillet, où on voit bien qu'à chaque fois, il y a cette présence de la partition musicale au-dessus de la partition chorégraphique qui nous montre bien la précaution prise toujours dans ce rapport musique-danse. Et les traités sont très précieux à cet endroit-là de la musicalité. Là encore, j'aimerais qu'on regarde un court extrait de la suite de ce que je viens de vous montrer, autour d'exercices, autour de cette musicalité de la belle danse, parce que je pense qu'en voyant quelques exercices, vous verrez aussi bien que si j'en parle, la complexité et la rigueur que demande ce travail autour de la musicalité de la belle danse.
Alors maintenant, on va partir sur une autre donnée, qui est vraiment le travail du rythme et de la musicalité d'une phrase, toujours avec ce phrasé de quatre mesures. On va partir sur quelque chose de très simple. On va se donner quatre pas différents. On va rester sur un trois temps, sur une passe à caille. Et on va se donner un premier pas qui est juste un pas dans la mesure, le premier temps. Un, deux, trois, puis on va se donner deux pas dans la mesure. 1, 2, 3, puis on va se donner 3 pas dans la mesure. 1, 3, et on va se donner 4 pas dans la mesure. 1, 2, 3, un seul pas, 2 pas, 3 pas, 4. En réalité, c'est un demi-coupé, c'est un coupé, c'est un pas de bourrée, c'est un pas de bourrée vite.
Thank you.
on va partir exactement de la même chose, mais on va se rajouter la possibilité de vous arrêter quand vous le souhaitez et de vous arrêter en prenant juste un pas pour que l'arrêt soit pris clairement sur le premier temps. Et on laisse passer toute une phrase, ou deux phrases, ou trois phrases, ou quatre phrases, comme vous le voulez, et vous reprenez. On essaye donc toujours de reprendre ensemble et d'être d'accord sur les démarrages de phrases et sur les démarrages des arrêts. Mais vous jouez entre vous, entre les arrêts et les redémarrages, et naturellement, Freddy, tu as le même jeu que. C'est-à-dire, tu peux jouer, tu peux t'arrêter, tu peux reprendre, tu peux... Parce qu'à un moment, c'est aussi un des grands apprentissages qu'on a au fur et à mesure des années, qui est vraiment né de la danse baroque, c'est que c'est un tel travail de précision rythmique qu'on peut garder exactement cette même précision sans forcément s'appuyer sur la musique, mais on peut aussi garder cette précision dans le silence. Et du coup, on entend leurs pas et on entend toute la musicalité du phrasé de la danse elle-même. Donc si tu t'arrêtes, on va pouvoir entendre aussi ce jeu comme ça, rythmique entre eux et toi. Quand vous voulez.
Remarquez que même si on est sur cette très grande rigueur par rapport aux mesures, danse et musique ne s'illustrent pas véritablement l'un l'autre. Au contraire, ils sont plutôt comme des partenaires qui chacun développe, je l'arrête là, qui chacun développe sa propre possibilité, sa propre vie, en ayant en commun ce travail de mesure qui reste fondamental dans la précision. Mais ensuite, on n'est pas du tout, comme on pourrait le voir d'ailleurs dans certains ballets post-romantiques où quasiment la danse illustre ce qu'on entend dans la musique. Là, on n'est pas du tout au même endroit. On a ce qui les rassemble, cette question de la valeur métrique, de la mesure, etc. Et puis ensuite, on a chacun qui déploie sa propre possibilité. Ce qui fait que la danse, on la voit dans toute sa grandeur, tout comme on entend la musique dans toute sa grandeur, sans qu'il y ait finalement un copier-coller de l'un avec l'autre. Donc vous voyez que ce rapport à la musicalité, au rythme, peut être un énorme terrain de jeu, et c'est quelque chose qui va vraiment porter le travail de Béatrice Massin, et notamment, je pense à une pièce, parce que certains d'entre vous l'ont peut-être vue au Quartz, donc je pouvais pas ne pas en présenter un extrait, Que ma joie demeure, qui je crois a été programmée, on en parlait avec Nadège tout à l'heure, en 2004 au Quartz, et dans Que ma joie demeure, il y a tout ce jeu musical qui existe, avant que je lance l'extrait, je préfère parler, allant même jusqu'à exposer la rythmicité de cette danse en silence. Ce qui, évidemment, là, je dirais, c'est Béatrice Massin, la chorégraphe contemporaine, qui le fait. C'est pas du tout dans un travail de reconstruction. Et c'est très intéressant de voir, justement, la richesse de ces possibles relations entre musique et danse, et même lorsque la musique s'absente. Excusez-moi, ça s'arrête brusquement, mais parfois faut faire des choix de coupe. Donc un travail, finalement, d'actualisation de cette belle danse. Je reprends une citation que j'ai trouvée de Béatrice Massin qui me semble juste par rapport à ce travail engagé. Elle nous dit « Aujourd'hui, je garde en héritage du baroque l'étroite relation entre la musique et la danse, l'architecture, le volume et la dynamique du geste qui se déplie à l'infini. Mon écriture chorégraphique se fonde sur la diversité des corps et des savoirs pour construire une fresque spatiale et polyphonique. L'interprète-danseur du XXIe siècle, en faisant résonner cette matière, en révèle son actualité. » Ça rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure sur cette question de comment garder ce patrimoine de l'art vivant ? La danse a toujours été un art vivant. Comment le garder vivant, justement ? Évidemment, le réactualiser, lui donner, je dirais, de nouvelles possibilités est une manière de le garder complètement vivant. C'est certainement ce qui est mis en jeu aussi avec la pièce que l'on va voir ce soir, Masse B, qui vraiment pousse peut-être encore plus loin ces relations entre ce corps de la belle danse, sa musicalité, son état d'opposition, de verticalité, et des éléments de danse contemporaine. Notamment, ça on va le retrouver ce soir au niveau de la musique, où Béatrice Massin a fait le choix pour Masse B de travailler sur un choix musical qui pourrait paraître osé pour les puristes, peut-être, c'est-à-dire finalement d'entrelacer deux partitions musicales, enfin deux compositeurs en tous les cas, entrelacer un compositeur du XVIIIe siècle, Jean-Sébastien Bach, avec un autre de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est Ligeti, et de voir comment cet entrelacement de partitions de deux siècles différents pouvait générer finalement une matière musicale sensible, intéressante pour notre 21e siècle, puisque cette partition nouvellement créée est spatialisée, animée par un créateur sonore qui va enrichir finalement ce travail de découpage, de mise en apposition de ces partitions existantes. Alors, comme toujours, vous le savez, je ne veux pas vous montrer d'extrait de ce que vous allez voir, mais quand même, il y a quelque chose qui me plaisait vraiment, c'était... Alors, je l'ai mis en tout petit, comme ça, les images, vous les voyez peu quand même, ces images de répétition, mais vous les voyez quand même un petit peu. Et puis, parce que je ne voulais pas dire à sa place... En tout cas, j'étais très touchée par l'enjeu de Masbé. Qu'est-ce que dit Masbé? Qu'est-ce que raconte Masbé? Et comme ça, ça va aussi vous permettre de rentrer tranquillement dans cette expérience que vous allez vivre ce soir, à la fois de séquences peut-être qui sont plus reliées dans votre imaginaire à la danse contemporaine, et puis d'autres moments où vous direz « Ah tiens, là je vois l'opposition de la belle danse » ou « Je vois... » Voilà. En tout cas... un court extrait de quelques paroles autour de cette création de Masbé.
Masbé, c'est une grande aventure, c'est une grande fresque humaine sur la communauté, sur la façon dont on peut recréer un plaisir commun. C'est une fresque qui commence et qui ne pouvait commencer pour moi que dans l'idée des milliers de personnes qui à travers tous les siècles ont marché, voyagé au travers de la planète en fuyant leur point de domicile pour aller vers ailleurs. Le début de Masbé, ce sont des gens qui voyagent, qui partent, qui marchent, aussi bien comme les protestants du XVIIe siècle que les Syriens actuellement ou d'autres populations actuellement sur la Terre.
Bérangère, tu vas remonter en 12.
Le travail de Masbé, c'est avant tout le choix aussi d'une partition musicale et d'une œuvre musicale qui est celle de la messe en si de Bach. La grande question pour moi, c'était comment arriver à perturber l'ordre de la messe pour arriver à donner une autre sensation à cette musique. C'est par le biais de la musique contemporaine que je suis arrivée à perturber l'ordre. On a même été jusqu'à découper des moments de Ligeti et des moments de Bach pour donner vraiment une interférence, une rencontre entre les deux partitions musicales pour faire vraiment que ce soit un dialogue très serré, plutôt de phrases musicales que de grandes séquences musicales. Je n'arrête pas de me fixer des points de rendez-vous avec la partition. Je suis libre de déployer un discours chorégraphique et un discours d'espace qui soit vraiment visible, pour permettre encore de retrouver encore mieux ce groupe incroyable des 10 danseurs.
Voilà, ça s'arrête brusquement, mais moi je ne veux pas perturber l'ordre de votre messe au quartz, qui est qu'à 19h30 vous avez une petite heure de pause pour pouvoir discuter, boire un verre et vous préparer au spectacle, et puis bon, on se retrouve à 20h30 dans la salle du théâtre. Ah, Nadège me fait un petit signe, elle veut dire un petit mot. Merci beaucoup.
Oui, j'ai oublié tout à l'heure de vous rappeler que les conférences de Céline Roux, avec son accord et gentiment, sont en ligne, c'est-à-dire qu'on les enregistre. Et puis, pendant toute la saison, et uniquement pendant toute la saison, après, sont accessibles sur le site du Quartz. Donc, vous pouvez les réécouter. Vous ne pouvez pas les copier, parce qu'elles sont protégées. Mais néanmoins, vous pouvez les réécouter à l'envi pendant toute la saison jusqu'au mois de juillet. Voilà.
Merci. Merci.